Direct en jeu, la radio insolite, notre rendez-vous traditionnel avec la poste, Filaposte, pour un timbre au premier jour. Mais avant de parler de cela, il faut que je dise bonjour à Frédéric Morin, directeur adjoint de Filaposte, qui n'est pas n'importe où aujourd'hui.
Oui, bonjour. Effectivement, je suis en Dordogne aujourd'hui, pour être précis, sur le site de l'imprimerie à Boulazac, dont le directeur est Olivier Zulewski, son adjoint Laurent Bernard, qui m'accueille pour quelques jours et je suis toujours ravi d'être physiquement à l'imprimerie.
Mais qui est à Boulazac? Mais c'est quoi? C'est un village? C'est un hameau?
Alors, c'est la banlieue de Périgueux. C'est une zone d'activité assez importante en Dordogne qui est à la périphérie de Périgueux, où se trouve l'imprimerie depuis plus de 50 ans, en fait, hein, puisque, comme on aime à le rappeler, l'imprimerie a été installée au début des années 70, en Dordogne, et donc on est là depuis plus de 50 ans, et tous les timbres de France partent exclusivement de cette imprimerie, et une bonne partie des timbres qui sont fabriqués ici partent même vers des postes étrangères.
C'est original de s'être installé comme ça, en région, puisqu'on ne dit pas en province, on dit en région.
Alors, dans les années 70, l'aménagement du territoire, qui était très à la mode, a amené à ce qu'un certain nombre de sites industriels qui dépendaient de l'État ont été effectivement dispatchés sur différents territoires. Et on trouve beaucoup de sites de la Poste en Nouvelle-Aquitaine. Hein, on pourrait citer Libourne, qui est bien connue pour le Père Noël, ou l'imprimerie en Dordogne pour les timbres.
Concrètement, dans une imprimerie, il y a quoi? Il y a juste des imprimeries, c'est le cas de le dire.
Alors, cette imprimerie, elle se visite. Hein, le site fait 27 000 m². On est très fiers d'ailleurs de dire que c'est l'une des imprimeries les plus propres d'Europe, puisque une partie de son énergie est produite en panneaux photovoltaïques qui sont sur tout le parking, donc à peu près 15% de l'énergie est solaire. Et on y trouve des équipes qui, effectivement, maîtrisent les différentes techniques d'impression, que ce soit l'offset, l'héliogravure, la taille douce, dont on va parler sur le timbre d'ailleurs d'aujourd'hui, du numérique, mais aussi des équipes de logistique, et puis tout un tas de fonctions de support, de DSI, hein, d'informatique, puisque on gère beaucoup de flux d'informations qui vont venir alimenter tout ce qu'on en imprime.
D'accord. C'est juste pour revenir sur ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut visiter? Est-ce que c'est vraiment un site industriel qu'on peut venir voir?
Tout à fait. Alors, ça se visite sur rendez-vous. Il faut contacter le service communication qui est présent à l'imprimerie. C'est sur rendez-vous parce qu'il y a souvent quelques mois d'attente, parce qu'en fait, on ne fait que 2 visites par semaine, pas plus de 15 personnes à chaque fois. Et il faut bien reconnaître que ça a beaucoup de succès, parce que le tourisme industriel, on le sait, marche bien.
Oui.
Et bien sûr, beaucoup de philatélistes prennent rendez-vous pour venir en club visiter l'imprimerie. Hein. C'est un peu là que naissent les timbres qu'ils mettent ensuite dans leur collection. Mais tout un tas d'autres personnes qui s'intéressent au tourisme industriel en Dordogne et qui planifient des rendez-vous.
D'accord. Donc ça veut dire que par exemple le timbre dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de parachutiste, il a été imprimé à Boulazac et il part à Paris, au Carré d'Ancre, pour faire son premier jour demain.
Exactement. Alors il est déjà parti, il est déjà arrivé au Carré d'Ancre pour être sûr que les premiers clients qui arriveront demain matin à 10h en profitent. Mais c'est exactement ça. Tous les timbres qu'on peut trouver dans un bureau de poste, qu'on peut trouver au Carré d'Ancre, qu'on peut trouver sur laposte.fr, qu'on peut trouver même chez les buralistes, tous les timbres sont imprimés et la logistique même part du site. Et donc, on distribue ces timbres un peu partout en France, puisque ce timbre, il sera exclusivement au Carré d'Ancre demain matin. Mais en revanche, il sera dans un grand nombre de bureaux de poste dès lundi prochain. Enfin, mardi, en l'occurrence, puisque lundi est férié.
Voilà. On rappelle juste le principe de ces premiers jours. C'est quand est-ce que c'est décidé? Pourquoi est-ce que c'est décidé sur ce type de timbre?
Oui, alors le timbre, en l'occurrence, fait partie de ce qu'on appelle le programme philatélique. Il y a une cinquantaine de timbres qui sont sélectionnés au travers d'une commission philatélique qui se réunit tous les 6 mois, qui décide à peu près 18 à 24 mois avant la sortie du timbre de la thématique qui est sélectionnée parmi des centaines qui nous sont proposées. Et puis ensuite, la programmation de ce calendrier se fait en fonction soit de dates symboliques, soit de façon ponctuée en fonction des salons philatéliques que l'on fait ou de dates plus importantes sur la période. On ne sort pas de timbre pour une philatélique en général entre le 14 juillet et le 15 août parce que tout le monde part en vacances. On en sort aussi assez peu sur la période de Noël. Donc voilà, le reste de l'année, on a pratiquement un timbre qui sort toutes les semaines.
Alors là, on revient au 22 octobre 1797 et on se demande si c'est un timbre ou si c'est une page d'histoire dont on parle.
Alors c'est toute la force de la philatélie. C'est que bien sûr, ce sont des petits objets que l'on collectionne, qui sont des œuvres d'art, mais c'est aussi une formidable façon de redécouvrir l'histoire de France. Et là, en l'occurrence, moi-même, j'ai redécouvert une page de l'histoire de France au travers d'un sujet et d'un loisir ou d'une activité qui est pourtant très pratiquée aujourd'hui, mais dont on oublie qu'elle a 250 ans pratiquement, puisqu'effectivement, la première personne qui s'est livrée à l'exercice, c'était le 22 octobre 1797. Je parlais du Français André-Jacques Garnerin, qui est la première personne au monde qui a sauté en parachute. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est toujours amusant de se dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font du parapente, font du parachutisme, à la fois pour le loisir, mais aussi pour d'autres activités dans l'aviation. Hein. Et là, en l'occurrence, on revient un peu à la genèse de ce parachute. Donc, une invention française, il faut toujours en être fier, hein, quand un Français a inventé, avec une particularité, c'est que le parachute a été inventé finalement avant l'avion. Donc, comment est-ce que cette personne a fait son premier saut?
Il a bien fallu qu'il monte quelque part, non?
Exactement. Donc, il est monté dans un ballon jusqu'à 700 mètres d'altitude. Et depuis, le ballon, il a sauté dans le vide avec le premier parachute. Donc, la première expérience de parachutiste au monde a eu lieu en France.
Ouais. Alors là, pour une fois, c'est pas une photo, parce que bon, je suppose que là, c'était difficile de prendre la photo à cette époque-là. Là, c'est un dessin.
Exactement, c'est un dessin, et en plus, c'est une gravure, puisque il y a une première création d'un artiste qui est Benjamin Van Blanc, qui a dessiné ce bloc de timbre avec deux personnages, puisqu'on va parler de la deuxième personne qui s'y trouve ensuite. Mais effectivement, ce timbre étant un timbre imprimé en taille douce, le dessin a été réinterprété ensuite par une graveuse qui s'appelle Lynn Fignon, et qui donc a fait ce formidable bloc d'un timbre. On parle de bloc puisque l'ensemble de la surface est supérieur au timbre, hein. Le timbre est à l'intérieur de ce bloc. Le timbre, on y voit les deux personnages avec le parachute, et puis sur tout le bloc, on voit tout le public qui avait assisté à cette première en costume d'époque, je dirais.
D'accord. Alors, la deuxième, parce que bon, c'est...
Alors, la deuxième, parce qu'effectivement, ce qui est important de rappeler sur ce timbre, c'est qu'on ne met pas en valeur juste Jacques Garnerin, qui était le premier, mais également Jeanne Labrosse, parce que Jeanne Labrosse, eh bien, c'est la première femme qui a sauté en parachute, et juste un an après Jacques Garnerin, elle était, on va dire, un peu une disciple de Garnerin à son école. Ils ont fait connaissance, elle a découvert, en fait, elle ne connaissait pas... Garnerin lors de son premier saut. Elle faisait partie du public qui a regardé ce saut. Et puis très rapidement, en fait, elle a intégré l'environnement de Garnerin. Et un an plus tard, donc assez vite, elle a à son tour fait le premier saut. Donc elle est la première femme au monde à avoir sauté également en parachute. Et pour la petite histoire, cette expérience partagée a été plus loin, puisque dans la vie privée, ils se sont ensuite mariés.
D'accord, donc ils avaient un point commun qui les a réunis, quoi. Je peux considérer que c'est le plus beau timbre de l'année?
Alors, le plus beau timbre, c'est toujours très difficile à dire. On sait qu'en tout cas, au sein des philatélistes, il va beaucoup plaire, puisque la taille douce représente à peu près 40% du programme d'émission des timbres du programme philatélique. On sait qu'ils sont donc très appréciés. Après, les goûts et les couleurs, c'est toujours très difficile. Moi, je le trouve très beau, très classique. Mais la richesse du programme philatélique aussi, c'est de couvrir des thématiques tellement larges que de dire que celui-là est plus beau ou moins beau, bah, finalement, on laisse le public voter. Et donc, c'est l'occasion effectivement de rappeler que ce timbre fera partie de l'élection du timbre de l'année prochaine, mais qu'il vous reste déjà quelques jours, hein, puisque ça s'arrête ce week-end, pour voter pour les plus beaux timbres de l'année 2022. Donc, sur le site qui est prévu à cet effet de l'élection du timbre. Vous allez sur le site élection du timbre et vous avez les timbres qui sont rangés par catégorie et vous pouvez voter pour les timbres que vous préférez. Et en l'occurrence, il y a un jeu concours pour gagner un certain nombre de dotations. Et on espère, année après année, battre des records du nombre de votants, qui est un challenge de plus en plus élevé, hein, puisque l'année dernière, nous avons atteint les 100 000 votes, ce qui est assez considérable, hein, pour un vote en ligne. Mais on espère bien le dépasser encore cette année. Donc, il nous reste quelques jours pour battre ce record.
D'accord. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Ça veut dire que là, les fidatélistes se mobilisent pour cette élection ou parce que le timbre devient un autre symbole qu'une simple marque d'affranchissement?
Alors, on n'a pas que des philatélistes hein, qui votent. Bien sûr, beaucoup, parce qu'ils sont très sensibles au sujet. Mais quand on remplit le questionnaire qu'on vote, on demande d'ailleurs aux personnes s'ils sont collectionneurs ou non collectionneurs. Et on a à peu près la moitié des gens qui s'expriment qui sont des collectionneurs, l'autre moitié qui ne l'est pas. On voit aussi, parce qu'on vous demande la catégorie d'âge dans laquelle vous trouvez, que c'est vraiment transgénérationnel. Non, je pense que le timbre fait partie, et en tout cas les beaux timbres de collection font partie de la Madeleine de Proust de tout le monde, qu'on ait été collectionneur plus jeune, qu'on ne le soit plus
Eh
aujourd'hui, qu'on le
oui.
soit encore, on a toujours eu chez soi une collection de timbres. Parce qu'on en a hérité de ses parents, parce qu'on décollait les timbres quand on était petit. Donc, il n'y a pas beaucoup de foyers français qui n'ont jamais eu un début de collection de timbres chez eux. Et donc, le fait de donner son avis, de voter sur ces visuels, ça crée un vrai engouement chaque année. Et c'est vrai qu'on est surpris de voir chaque année qu'il y a de plus en plus de personnes qui donnent leur avis, ce qui est très utile pour nous, puisque en fonction des résultats, bien évidemment, il y a des tirages au sort pour les gagnants. On remet des prix aux artistes qui sont primés, hein, qui
D'accord.
gagnent les votes. Mais pour nous, ça nous sert aussi pour analyser quelles sont les tendances, quels sont les visuels qui plaisent, quels sont ceux qui plaisent moins. Et donc, ça nous permet aussi d'adapter nos choix artistiques, thématiques, d'une année sur l'autre.
D'accord. Et puis je crois qu'il y a eu un salon philatélique à Paris dernièrement.
Exactement, la dernière fois qu'on s'était parlé, je vous l'avais annoncé, mais il est passé, il était porte de Champéret. Le premier jour était pendant un jour de grève, donc on redoutait un petit peu d'avoir une baisse de trafic. Et en fait, c'est là qu'on est toujours très surpris et agréablement surpris de la passion des collectionneurs. Les collectionneurs étaient là dès 7h30, 8h du matin, alors que le salon ouvrait à 10h, et que le premier jour, il y avait 300 mètres de queue, de collectionneurs qui attendaient pour pouvoir découvrir les émissions que l'on faisait à cette occasion. Donc on est très content de ce salon. La dernière fois qu'on avait fait un salon au mois de mars, c'était en 2019, donc avant le Covid. Et on doit avouer que la performance de visiteurs sur notre stand était supérieure à celui de 2019. Donc là aussi, ça confirme un peu comme l'élection du timbre, que les personnes aiment le timbre avec différentes façons. On a des passionnés collectionneurs qui collectionnent tous les timbres, d'autres qui viennent plus par curiosité. Et puis ce salon était assez sympathique parce qu'il y avait beaucoup d'autres exposants, de vieilles cartes postales, de vieilles enveloppes, de vieux timbres. Et c'est vraiment le moyen de redécouvrir tout cet univers de la correspondance sous toutes ses formes au travers des siècles, puisqu'on peut trouver des courriers qui dataient d'avant même la création du timbre, hein, qui date de 1849. Et moi, j'étais assez surpris même de voir le samedi beaucoup de personnes en famille qui venaient plutôt d'âge intermédiaire, on va dire, avec leurs enfants, qui cassaient un petit peu l'idée selon laquelle la philatélie serait réservée qu'aux seniors. Et en fait, on s'aperçoit que c'est assez transgénérationnel.
Oui, puis avec ce type de timbre de parachutiste, ça permet de naviguer un peu partout, aussi bien dans le domaine du sport, dans le domaine du voyage, dans le domaine de la nature. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. C'est plus, pour ça que c'est plus un timbre traditionnel, c'est vraiment quelque chose qui marque.
Ben, vous vous souvenez qu'on a parlé du Mime Marceau la dernière fois, on était sur un autre sujet. Le produit qui a extrêmement bien marché sur ce salon, c'est une affiche qu'on avait faite, qui était une reproduction d'un ancien timbre du pont Alexandre III sur Paris avec des dorures et qui a été un vrai, vrai succès. Mais on parlait aussi, on sortait de timbre parce que c'était les 100 ans de la mort de Gustave Eiffel et donc dans un registre plus industriel, ben, c'est le patrimoine industriel au travers d'Eiffel qui était mis en avant. On avait le timbre qui sortait du colonel Beltrame, qu'on avait dévoilé en janvier, mais qui ne sortait qu'au salon et qui a connu un très gros succès. Et puis, dans un registre très différent, un timbre qui a très bien marché, qui marche encore très fort, c'est les 75 ans de PIF. Alors, depuis, magazine qui a été bien médiatisé pour d'autres raisons, mais en tout cas, le timbre lui-même connaît un vrai, vrai succès, parce que c'est un peu une Madeleine de Proust de toute une génération qui ont lu PIF par le passé.
Et puis n'oublions pas l'an dernier, Le Petit Prince, il y avait le Kid avec le timbre des 100 ans du Kid de Charlie Chaplin, enfin plein de choses extraordinaires et merveilleuses quoi.
Exactement, et encore beaucoup d'émissions à venir sur la suite de l'année d'ailleurs.
Ouais. Est-ce que je peux voir le programme de ce qui doit sortir jusqu'à fin juin?
Oula, vous me posez un peu une colle, mais je vais vous en donner quelques exemples. Alors, il y a un bloc qui va sortir d'un timbre d'une série que je trouve absolument magnifique à titre personnel, qu'on a lancée pour dans le cadre à l'occasion de la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
Oui.
Et donc depuis pour la quatrième année, et on le fera encore un an jusqu'en 2024, date à laquelle Notre-Dame aurait été reconstruite, on a mis en avant une partie de la cathédrale. Et là, en l'occurrence, c'est le bourdon de la cathédrale qui est mis en avant sur un bloc, et le timbre, je le trouve absolument magnifique. Il fait suite d'une série, donc c'est le quatrième, où on avait fait d'abord les façades la première année, les vitraux la deuxième année, avec un timbre rond qui reprenait, qui était absolument magnifique, les grandes orgues l'année dernière, et enfin cette année donc le bourdon, en attendant de voir le dernier chapitre qui sortira l'année prochaine. Donc voilà, un exemple d'une série magnifique, et là on peut avoir, pour quelques euros, puisque chacun des timbres pour moins de 2 euros, pour 10 euros, sur 5 ans, vous avez une collection d'œuvres artistiques à petite échelle qui sont magnifiques. J'étais cette semaine à l'inauguration d'un timbre qui sortira au mois de juin sur la maison Caillebotte dans l'Essonne, qui est un musée absolument magnifique à visiter que j'ai découvert. Donc ce timbre sortira au mois de juin. Et je citerai sur nos machines cette semaine sont le bloc qui sortira fin mai de 4 timbres sur les 100 ans des 24 heures du Mans.
Et
Vous voyez,
oui.
on est dans des univers très loin, très différents. De Notre-Dame aux 100 ans des 24 heures du Mans ou le musée de la maison Caillebotte. Donc, c'est toute la richesse de la philatélie.
D'accord. Bon, par contre, demain, c'est non négociable. C'est uniquement au Canada qu'à Paris que je pourrais trouver le timbre.
Exactement. Mais dès lundi, vous pourrez le trouver ailleurs. En fait, le plaisir des philatélistes, c'est d'aller au premier jour pour avoir l'oblitération du premier jour,
Exact.
qui est toujours le plaisir d'avoir ce cachet d'oblitération qui vous est mis sur l'enveloppe avec le timbre quand vous venez sur place. Qui donne un peu plus de valeur à l'objet que vous avez entre les mains.
Bon, eh ben parfait. Eh ben merci pour ce nouveau rendez-vous. Et puis, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous sautez dans le train et vous foncez. Demain matin, ça ouvre à 10h, je crois, le carré d'encre.
Exactement. Et à partir de 10h30, Lynn Fillon et Benjamin Van Blanc, qui sont donc les deux artistes qui l'ont fait, sont même là pour une séance de dédicace pendant 2 heures.
Oh ben, ce sont encore mieux. Alors, non seulement j'ai le timbre, j'ai le cachet premier jour, et en plus, j'ai la dédicace. Tout va bien.
Exactement.
Merci, à bientôt.
À très bientôt.